Bonsoir chers amis, nous voici maintenant dans notre sixième et dernière intervention sur Saint Jean Cassien. Cette intervention sera un peu particulière. Tout d'abord, je voudrais conclure un peu sur les 9e et 10e conférences, introduire la 13e conférence qui a posé le plus de problèmes à Jean Cassien, puisqu'il s'agit d'une conférence où entre en ligne de compte la liberté individuelle et la grâce, et débat qui va avoir énormément de suites plus tard en Occident. Enfin, j'espère que nous aurons le temps de parler un petit peu du traité de Jean Cassien sur l'incarnation. Nous bénéficions d'une traduction relativement récente par Madame Marie-Anne Vanier, qui a été publiée aux éditions du CERF en 1999. Tout d'abord, en guise de conclusion sur les conférences 9 et 10, je voudrais attirer votre attention sur ce que l'abbé Isaac explique à propos de la conférence 10, qui constitue en quelque sorte le sommet de l'enseignement spirituel. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous parle de la querelle anthropomorphite, où les moines, certains moines avaient comme coutume de s'attacher à un dieu à forme humaine. Et il nous dit qu'il faut aller au-delà, que c'est un reste de paganisme, et il va même plus loin, parce qu'il explique que lors de la prière de feu, c'est-à-dire le plus haut niveau de la prière, qui est la manifestation en fait de l'Esprit Saint et son interpénétration avec l'orant, il explique que le moine est ravi hors des sens et de tout le visible. Par conséquent, ce n'est pas simplement la représentation en tant que représentation sensible, mais c'est aussi, on peut dire, tous les sens et toute l'activité de l'intellect qui cesse à ce moment-là. Et nous sommes donc vraiment dans la tradition hésychaste, et c'est d'ailleurs un élément très important de la compréhension de la nature de la prière hésychaste, sur lequel Saint Grégoire Palamas reviendra longuement contre ses adversaires. Et là encore, une fois de plus, Palamas n'apparaît pas comme un innovateur, comme le disent ses détracteurs, mais bien comme quelqu'un qui s'inscrit dans une longue tradition des pères. Voici ce que nous dit Palamas dans un passage, mais il y en a beaucoup de passages où il explique cela. Comme le dit le grand Denis, une telle union des divinisés avec la lumière d'en haut se produit lorsqu'il y a arrêt de toute activité intellectuelle. Et il renvoie au nom divin de Denis l'Aréopagite. Et il explique, la contemplation n'est donc pas seulement dépouillement et négation. On dit souvent que c'est une théologie négative. Certes, mais ce n'est pas que ça. C'est une union et une divinisation qui survient mystiquement par la grâce de Dieu, après le dépouillement de tout ce qui vient d'en bas, pour marquer l'intelligence, ou plutôt après l'arrêt de toute activité intellectuelle, ce qui est plus qu'un dépouillement. Le dépouillement, en effet, n'est que la marque de cet arrêt. Voilà pourquoi il appartient à tout croyant, et j'insiste sur tout croyant, de séparer Dieu de toutes les créatures, tandis que l'arrêt de toute activité intellectuelle et l'union qui en résulte avec la lumière d'en haut est un état objectif et une fin divinisante. Il appartient seulement à ceux qui ont purifié leur cœur et reçu la grâce. C'est dans l'ouvrage traduit par Jean Meyendorf, Triade pour les saints, pour la défense des saints et des castes, 1, 3, 17, donc premier volume, page 146. Donc on voit que ce que décrit en quelque sorte Saint Jean Cassien s'inscrit dans une très longue tradition qui est en fait la tradition orientale orthodoxe dans son ensemble. Je voudrais maintenant en venir tout de suite à une conférence qui suit, dans la mesure où cette conférence a fait l'objet de beaucoup de débats, puisque c'est surtout elle qui a été l'objet d'une certaine condamnation de Saint Jean Cassien en Occident, mais vous allez voir que la question n'est pas si simple. Qu'est-ce que nous dit Saint Jean Cassien ? Il parle souvent d'exemples concrets, et là, il nous explique, même après avoir dépensé tous ses efforts à mettre sa terre en valeur, le laboureur ne peut porter au compte de son labeur personnel l'abondance des moissons, ni la richesse de ses récoltes. Il a si souvent éprouvé qu'elle avait été vaine. Mais des pluies opportunes, un ciel serein et doux, sont encore nécessaires après. Donc voilà. L'image d'ailleurs est assez bien choisie puisque malheureusement nous subissons actuellement des pluies extrêmement violentes. Il ne suffit pas que le laboureur, que le paysan se donne de la peine. Il y a encore un facteur supplémentaire qui s'y ajoute en quelque sorte et qui est indépendant de sa volonté. Eh bien, c'est le temps. Et par cet exemple, Saint Jean Cassien veut nous faire comprendre l'importance de la grâce divine qui, elle seule, peut permettre de mener à bien nos actions. Et il nous dit, même en cas de succès, que l'homme, dans son orgueil, n'ait point la prétention de s'égaler à la grâce ou d'entrer en société avec elle. Et quelque chose qui est important, c'est que la conclusion manifeste de tout ceci, c'est que le principe, et j'insiste ici sur le mot principe, le début des actes bons, mais aussi des bonnes pensées, est en Dieu, qui nous inspire le commencement de la bonne volonté, et nous donne la force et le moment favorable pour accomplir nos désirs. Donc, le principe de l'acte bon est en Dieu. C'est Dieu qui donne cette impulsion. Et il prend l'exemple de la chasteté. C'est un très bon exemple. Et il explique que, par exemple, les philosophes, par exemple, ont pu arriver à une certaine forme de chasteté partielle, c'est-à-dire à une continence. Et cela ne signifie pas qu'ils aient obtenu cette pureté intérieure de l'âme et cette pureté intérieure de l'âme, qui s'exprime en grec avec le terme agnos, c'est un don de la grâce divine. C'est-à-dire que la grâce divine vient en quelque sorte pour parachever, pour mener à bien, pour donner sa complétude à l'effort de l'homme. Et que sans cette grâce divine, l'homme ne peut pas mener son action à son terme. Le point de vue de Saint Jean Cassien me semble aussi très important. Le Saint Jean Cassien ne fait que reprendre le point de vue des pères et le point de vue apostolique. Saint Paul dit très clairement, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu est amour, il ne faut pas l'oublier. Et il veut que le salut de tous les hommes. Donc, Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il se perde, mais pour qu'il vive éternellement. Et Saint Jean Cassien explique, c'est le dessein de Dieu, c'est sa volonté, c'est son amour qui s'exprime. Et dès qu'il voit éclater en nous la plus petite étincelle de bonne volonté, ou qu'il la fait jaillir de lui-même de la dure pierre de notre cœur, sa bonté en prend un soin attentif. Il l'excite, il la fortifie par son inspiration. Il veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils viennent à la connaissance de la vérité. C'est 1 Timothée 2, 4. C'est sa volonté que ne se perde pas un seul de ses petits. Et il ajoute, peut-on, dès lors, penser sans un sacrilège énorme qu'il ne veuille pas le salut de tous généralement, mais seulement de quelques-uns. À mon sens, celui qui est visé ici, c'est saint Augustin. Et il voit donc, pourquoi ? Parce que saint Augustin voit l'humanité comme une massa damnata, comme il l'explique lui-même, une masse de damnés. Et Dieu distribue sa grâce indépendamment de toute action humaine, d'une façon qui est incompréhensible à l'homme. Ce qui revient à dire que l'humanité ne se situe pas dans la perspective d'un salut global, mais d'un salut limité à quelques personnes. Ce qui est contradictoire, en quelque sorte, avec la vision chrétienne et de la vision des pères. Ce qui veut dire que la grâce du Christ est toujours à notre disposition. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et ployés sous le fardeau, je vous soulagerai. Si donc il n'appelait pas tous les hommes en général, mais seulement quelques-uns, il s'en suivrait que tous ne sont pas non plus chargés soit du péché originel, soit du péché actuel, et cette parole ne serait pas juste. Et donc, la différence, au fond, avec saint Augustin, c'est, disons, la compréhension de l'importance qu'a pour l'homme le péché originel. Pour saint Augustin, l'homme est complètement dominé par le péché. Pour la tradition des pères, il reste un élément de libre arbitre dans l'homme qui a bien sûr besoin de la grâce pour s'exprimer, mais qui est toujours présent. C'est plus qu'une nuance. C'est deux compréhensions assez différentes du péché originel, du rôle de la grâce et des efforts de l'homme. C'est aussi la compréhension de ce qu'est Dieu, de l'amour de Dieu pour l'homme. La protection divine nous suit donc inséparablement. Si grande est la tendresse du Créateur pour sa créature, que sa providence ne serait point satisfaite de nous accompagner, elle nous précède toujours. Là aussi, on a dit que saint Jean Cassien ne mettait pas comme premier mouvement la grâce, eh bien si, la grâce nous précède toujours. Aperçoit-il en nous quelques commencements de bonne volonté ? Aussitôt, il épanche sur nous sa lumière et sa force, il nous excite au salut, donnant la croissance au germe qu'il a semé lui-même ou qu'il voit sortir par nos efforts. Donc, cette grâce, pour saint Jean Chrétien, est toujours corrélative, respectueuse, pourrait-on dire, de la liberté humaine. Et saint Jean Chrétien explique, la grâce et le libre arbitre se mêlent, pour ainsi dire, et se confondent d'une si étrange sorte que c'est entre beaucoup un véritable débat laquelle de ces deux choses est vraie. Si c'est parce que nous montrons un commencement de bonne volonté que Dieu a pitié de nous, ou si c'est parce qu'il a pitié de nous que nous arrivons à un commencement. C'est-à-dire qu'il y a une telle imbrication, pourrait-on dire, de la grâce avec la volonté humaine, que il est difficile, il est pratiquement impossible de distinguer clairement laquelle est la première. La grâce et le libre arbitre vont de pair pour saint Jean Chrétien. Enlever à l'homme soit l'une, soit l'autre serait abandonner la règle de foi de l'Église. Dans cette conférence, saint Jean Chrétien va s'appliquer à rechercher les citations, les passages de l'Écriture qui posent justement la question. Et cette méthode d'exégèse est extrêmement importante. C'est une caractéristique de saint Jean Chrétien. Pourquoi ? Parce qu'il ne veut pas tomber dans des spéculations abstraites à caractère philosophique, mais qu'il parle toujours de la révélation. C'est-à-dire que les Écritures sont la parole de Dieu, et c'est à partir des Écritures que l'on peut élaborer une réflexion. Ainsi, la grâce de Dieu coopère toujours pour le bien de notre libre arbitre. En tout, elle l'aide, elle le protège, elle le défend, de telle sorte que parfois elle exige ou attend de lui quelques efforts de bonne volonté pour ne point paraître lui conférer ses dons quand il est tout endormi et énervé par un lâche repos. Donc il y a une espèce de jeu, si on peut dire, entre la grâce et l'homme, et qui marque une relation, pourrait-on dire, d'amour. C'est une relation d'amour entre la grâce de l'Esprit-Saint et l'homme. Et il prend une comparaison qui me semble intéressante et vous allez voir pourquoi. Cherchons dans les choses humaines, donc je suis ici toujours dans la conférence 13, 14, 9, cherchons dans les choses humaines une comparaison avec l'incomparable clémence de notre Créateur. Non que nous prétendions y trouver quelque égalité de tendresse, mais du moins une certaine ressemblance dans l'indulgente bonté. Je suppose une mère pleine d'amour et de soin. Elle porte longtemps son petit enfant dans ses bras, jusqu'à ce qu'enfin elle lui apprenne à marcher. Et d'abord, elle le laisse ramper. Puis elle le dresse et le soutient de la main droite pour qu'il apprenne à poser les pieds l'un devant l'autre. Bientôt, elle l'abandonne un instant. Mais le voit-elle chanceler, vite elle le prend, soutient ses pas hésitants, elle le relève s'il est tombé ou le retient dans sa chute. Ou bien, au contraire, le laisse tomber doucement pour le relever ensuite. C'est une métaphore entre la relation qu'il peut y avoir entre l'Esprit-Saint et l'homme, la grâce de l'Esprit-Saint et l'homme, et la relation d'une mère avec son enfant. L'Esprit-Saint, parfois, on a l'impression que cette grâce se retire pour nous laisser, en quelque sorte, marcher, c'est-à-dire pour que nous fassions nous-mêmes nos preuves. Ça peut être aussi, d'une certaine façon, une épreuve. Mais dès qu'elle voit que nous chancelons ou que nous avons des difficultés, la grâce intervient à nouveau pour nous relever. Cette comparaison n'est pas nouvelle dans la tradition patristique, et je l'ai retrouvée dans la tradition syriaque. C'est très intéressant parce que cela nous montre, encore une fois, c'est un exemple de plus, qui montre que Saint Jean Cassien était au courant d'une certaine tradition syriaque qui a été transmise en particulier par les homélies macariennes. Par exemple, on la trouve à plusieurs reprises dans les homélies macariennes, comme dans la collection 3 publiée en Source chrétienne, le numéro 275, c'est l'homélie 27.3, page 320-323, où l'image est plus développée. On la rencontre aussi dans une autre, un autre ensemble de d'homélies macariennes, je veux dire les 50 homélies de Saint Macaire, qui ont été traduites par le Père Placide. Et donc là, je voudrais juste vous citer le passage qui correspond, en gros, à ce que vient de dire Saint Jean Cassien. Il n'est pas vrai, comme certains l'affirment, inspiré par de fausses doctrines, que l'homme est mort une fois pour toutes et complètement incapable de rien faire de bien. Vous voyez que là aussi, il se situe dans la problématique de la relation entre le libre-arbitre et la grâce. Donc c'est l'homélie 46.3 qui est dans à la page 339 de l'édition, la traduction du Père Placide des 50 homélies macariennes dans la collection Spiritualité orientale. Il n'est pas vrai, comme certains l'affirment, inspiré par de fausses doctrines, que l'homme est mort une fois pour toutes et complètement incapable de rien faire de bien. En effet, même si un petit enfant ne peut rien faire de lui-même et est incapable d'aller vers sa mère sur ses propres jambes, du moins il se roule, crie et pleure en cherchant sa mère. Et la mère a compassion de lui et se réjouit de voir le tout petit le chercher avec effort en poussant des cris. Puisque le petit enfant est incapable d'aller vers elle, c'est la mère elle-même qui, à cause du grand désir qu'il a d'elle, et prisonnière de son amour pour l'enfant, le soulève dans ses bras, le cajole et le nourrit avec une grande tendresse. C'est là ce que Dieu, ami des hommes, fait lui aussi à l'égard de l'âme, qui vient à lui et le désire avec ardeur. Bien plus, poussé par son profond amour et par sa douce bonté, il s'attache étroitement à l'intelligence et devient un seul esprit avec elle, selon la parole de l'apôtre. Et il fait allusion à 1 Corinthiens 6, 17. Cette image de l'esprit comme mère est une image syriaque qui repose aussi sur le fait que dans la tradition sémitique, le mot même pour esprit est du féminin, alors que dans la tradition grecque, il ne l'est pas. Donc on voit, si vous voulez, que Saint Jean Cassien a été influencé à bien des égards par la tradition syriaque, au moins de façon indirecte, c'est-à-dire au travers de cette tradition des homélies attribuées à Saint Macaire. Et il conclut, « Ainsi la sagesse multiforme de Dieu ménage-t-elle le salut des hommes avec une tendresse habile à varier ses moyens et vraiment insondable selon la capacité de chacun. Il accorde la grâce de sa largesse. Pour les guérisons même qu'il opère, il ne veut point se régler sur la puissance toujours égale de sa majesté, mais sur la foi qu'il trouve en chacun de nous ou qu'il a lui-même départi. » Je passe un petit peu sur le raisonnement qu'il fait, mais il est extrêmement clair. Et Saint Jean Cassien se méfie beaucoup des spéculations de la raison humaine. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Celui-là tente de la réduire à néant qui croit pouvoir mesurer avec sa raison humaine la profondeur de cet abîme insondable. Oui, Quiconque se fait fort de comprendre, d'expliquer parfaitement les conduites de Dieu par lesquelles il opère le salut des hommes, porte atteinte à la sentence apostolique. Et son audace sacrilège prononce à l'encontre que les jugements de Dieu sont pénétrables au regard, ses voies possibles à découvrir, alors que le Seigneur en personne en témoigne à l'égard de tels gens. Mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas vos voix, car autant les cieux sont élevés au-dessus de vos voix, et les pensées au-dessus de vos pensées. C'est Isaïe 55, 8, 9. Toujours, donc, c'est saint Jean Cassien, ce refus de se livrer à des spéculations rationnelles, ce goût pour l'écriture comme source des révélations. À la fin de sa conférence 13, saint Jean Cassien résume en quelque sorte sa position. Qu'est-ce qu'il dit ? Et je crois qu'il est important de bien comprendre ce qu'il dit. Donc je suis en 13, 18, 4. Premièrement, c'est le don de Dieu qui allume en nous le désir de tout ce qui est bien. Donc le don de Dieu allume en nous le désir de tout ce qui est bien. C'est la grâce divine qui meut en quelque sorte l'homme. Mais notre liberté demeure entière de pencher soit d'un côté, soit de l'autre. Dieu nous pousse vers le bien, c'est à nous d'y répondre. Donc, le pouvoir du libre arbitre n'est pas étouffé. Je crois que c'est ça, peut-être, le point le plus important. Je vous renvoie pour la position de saint Augustin au petit livre de Henri-Irénée Maroux, Saint Augustin et l'Augustinisme, qui est paru au Seuil dans la collection Point Sagesse. Je ne vais pas vous lire tous les points, mais peut-être certains qui sont particulièrement saillants dans la théologie antipélagienne d'Augustin, résumée en 12 propositions. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Donc nous sommes issus d'Adam selon la chair, qu'on a contracté la souillure du péché qui donne la mort, et qu'ils ne peuvent être délivrés du supplice de la mort éternelle, qui a passé d'un seul à tous par une juste condamnation, s'ils sont par la grâce régénérés en Jésus-Christ. Le péché qui donne la mort. Bon, admettons. Nous savons que ce n'est pas en vertu de nos mérites que la grâce de Dieu est donnée aux enfants ou aux personnes n'âge de raison. Soit. Nous savons que la grâce de Dieu est un secours donné aux personnes en âge de raison pour chacune de leurs actions. Nous savons que cette grâce n'est pas donnée à tous les hommes et que ceux à qui elle est donnée ne l'obtiennent pas d'après le mérite de leurs œuvres ni d'après celui de leur volonté, ce qui se voit particulièrement chez les enfants. Et là, il atteint vraiment un niveau inacceptable. Parce que qu'est-ce qu'il va dire ? Il va dire que les enfants même seront punis ou récompensés selon le bien ou le mal qu'ils ont en fait par leur corps, non en agissant par eux-mêmes, mais par ceux qui ont répondu pour eux, c'est-à-dire leurs parrains et leurs marraines. Ayant par cet intermédiaire renoncé aux démons, ils sont censés croire en Dieu et sont dès lors comptés ceux dont le Seigneur a dit « Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé ». Mais les petits-enfants qui n'ont pas reçu le baptême subiront les effets de la sentence prononcée contre ceux qui n'ont pas cru et qui seront condamnés. Donc ils iront en enfer. Ainsi, les enfants, même qui meurent avant l'âge de raison, sont, comme je l'ai dit, jugés non d'après ce qu'ils auraient fait si leur vie avait été plus longue, mais d'après ce qu'ils ont fait pendant qu'ils étaient dans leur corps, c'est-à-dire ce qu'ils ont cru par le cœur et la bouche de ceux qui les ont représentés au baptême. Donc là, on arrive vraiment dans des positions tout à fait invraisemblables. Comme nous voyons, la position de saint Augustin est une position qui est en contradiction pour répondre, avec la patristique, avec la manière de concevoir même le christianisme. Évidemment, la réaction par rapport à Pélage, vous savez que Pélage insistait sur le fait que l'homme peut arriver au salut d'une certaine façon par ses propres efforts. Ce qui est faux, évidemment. Et que l'hérésie pélagienne va être condamnée en 418. La position d'Augustin est bien sûr excessive. La position de Saint Jean Chrestien est un compromis, me semble-t-il, raisonnable, non seulement parce qu'elle est entre les deux, mais parce qu'elle se situe dans la tradition de l'Église. Malheureusement, cette doctrine va être condamnée en 529 au Concile d'Orange. Alors, ce qui est intéressant, je ne vais pas insister, vous avez sur Internet, je vous renvoie, il y a une très très bonne notice sur Wikipédia, semi-pélagianisme, avec tout un développement auquel je vous renvoie. Je ne vais pas vous le ressortir ici, ce n'est pas la peine. Ça ferait qu'alourdir les choses. Ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que cette divergence lourde n'a pas fini de faire parler d'elle. En effet, dans un premier temps, et d'ailleurs, la condamnation de Cassien ne sera pas évidente. Il y aura d'abord une condamnation d'Augustin, mais je passe dessus. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que, par la suite, au moment de la réforme protestante, qui va entraîner la contre-réforme catholique, les protestants vont prendre les positions les plus dures de l'augustinisme. Je vous rappelle que Luther lui-même était un moine augustinien et que le débat, en quelque sorte, va rejaillir, un débat extrêmement vif, qui va se développer non seulement entre protestants et catholiques, mais aussi entre jansénistes et catholiques, et le reste de l'Église catholique. Et dans l'histoire de la pensée théologique, les provinciales de Pascal sont une attaque, justement, qui se situe dans cette perspective et qui va attaquer les positions des jésuites qui défendent à cette époque-là une version beaucoup plus modérée des relations du libre-arbitre et de la grâce. Et c'est à cette époque-là qu'on va formuler le concept de semi-pélagianisme. Et on a comme figure emblématique un jésuite qui va s'appeler Luis de Molina, qui va défendre une conception modérée de la relation entre libre-arbitre et grâce. Donc nous allons avoir deux conceptions qui vont s'opposer. D'une part, la conception des protestants et des jansénistes, et d'autre part, la conception des jésuites, et en particulier de Luis de Molina. Je ne veux pas rentrer dans les détails, parce que c'est en dehors un petit peu, c'est intéressant, mais c'est en dehors de mon sujet. Qu'est-ce qu'ils vont mettre en avant? Eh bien, on va dire que les augustiniens stricts vont parler de grâce suffisante. c'est-à-dire d'une grâce qui est irrésistible, à laquelle l'homme ne peut pas résister, mais qui n'est pas donnée à tous, et qui donc balaye l'homme pour le faire accomplir ce que Dieu veut qu'il accomplisse. À cette conception de la grâce va s'opposer Louis de Molina, qui va parler d'une grâce suffisante qui apporte à l'homme les moyens de son salut sans entraver sa liberté. Là, nous sommes très proches des positions de Cassien sur ce point. Il n'est pas inintéressant de voir la postériorité de Cassien. On le voit, on l'a vu pour la conférence 10 et la prière hésychaste, comme quoi la manifestation et l'union avec l'Esprit-Saint suppose une cessation des activités de l'intellect. C'est ce que va expliquer saint Jean Cassien en disant que c'est au-delà de toute représentation et au-delà des mots, au-delà des paroles. C'est ce que va mettre en forme de façon explicite saint Édouard Palamas, le passage que je vous ai lu. Mais il y en a bien d'autres dans les triades pour la défense des saints hésychastes. La conception de la grâce de saint Jean Cassien, qui est finalement la conception traditionnelle, on pourrait dire, de l'orthodoxie, et qui va, bizarrement, en quelque sorte, être reprise à un certain moment, pratiquement, par les jésuites, dans leur combat contre les protestantismes et les jansénistes. Alors que les protestants et les jansénistes vont se référer à une lecture étroite d'Augustin. Enfin, j'en arrive maintenant au dernier point peut-être de cette causerie. Je voudrais vous dire quelques mots du traité de saint Jean Cassien, comme je vous l'ai dit au début, du traité sur l'incarnation et son importance. Donc, ce traité a été traduit récemment, en 1999, donc c'est relatif, mais enfin, on bénéficie d'une traduction claire, bien écrite, etc., par Marianne Vanier, aux éditions du CERF. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, Marianne Vanier? Donc, je vais résumer ici. Il nous dit que l'expérience de saint Jean Cassien prend sa source, je la cite, dans l'expérience de la transfiguration. C'est-à-dire que la transfiguration est au cœur de la christologie de saint Jean Cassien. Ce qui est très important, c'est-à-dire que c'est le fait de cette divinisation de l'être humain, cette possibilité ouverte par l'incarnation, qui est au cœur de la christologie de saint Jean Cassien. Le traité lui-même a été écrit vraisemblablement vers 430 à Marseille. C'est une commande. C'est une commande faite par le pape et il s'agit de contrer le développement de la pensée de Nestorius. Je vous rappelle, en gros, je ne vais pas rentrer dans les détails, Nestorius, patriarche de Constantinople, qui avait expliqué que l'adjectif ou le terme de Théotokos, mère de Dieu, ne peut pas s'appliquer à la mère de Dieu, dans la mesure où celui qu'elle a mis au monde était un homme, il n'était pas Dieu. Et que de là va s'en suivre toute une querelle sur la nature même de l'incarnation. C'est le pape Célestin qui va faire appel à saint Jean Cassien. Il va chercher des gens pour répondre à Nestorius. Saint Jean Cassien présente un avantage sur saint Augustin, c'est celui de maîtriser le grec et celui de bien connaître Constantinople, où il a séjourné. Son ouvrage se présente en 7 parties. C'est symbolique. Le chiffre 7 est bien sûr symbolique dans tout l'Ancien Testament, bon, et le Nouveau. Mais là, ça renvoie plus particulièrement aux 5 livres de Moïse, c'est-à-dire au Pentateuque, et aux 2 natures du Christ. Donc, les 2 derniers livres, c'est-à-dire le livre 6 et le livre 7, sont plus particulièrement importants. Le but de l'ouvrage est clair, il s'agit d'affirmer la divinité du Christ face à Nestorius. Il va, comme toujours, saint Jean Cassien ne développe pas des grands raisonnements fumeux et abstraits, mais il s'appuie sur l'écriture. C'est-à-dire qu'il va analyser, présenter des passages de l'écriture. Dans la mesure où l'écriture est le fruit d'une révélation qui est au-delà de la raison humaine. La raison humaine ne peut pas vraiment comprendre logiquement, en quelque sorte, la révélation. Et c'est justement précisément la raison pour laquelle il y a une révélation, d'ailleurs. Il faut bien comprendre ça. Dire qu'il y a un Dieu en 3 personnes, c'est parfaitement irrationnel. L'écriture est une preuve pour saint Jean Cassien. Et cette preuve est supérieure à toute preuve, puisqu'elle est inspirée par Dieu. Elle est donc un gage de vérité et constitue par elle-même sa propre preuve et n'a aucune mesure avec la sagesse profane. Dieu l'a dit, dit-il, Dieu a parlé. Sa parole est pour moi la justification souveraine. J'écarte ses argumentations. J'écarte les discussions. La personne de celui qui parle suffit à me faire croire. Et là, il y a aussi cette même visée que l'on a retrouvée dans d'autres passages de saint Jean Cassien. Chercher à s'approprier les paroles du texte sacré, à les faire tellement siennes qu'il arrive lui-même à s'exprimer par la parole du texte inspiré. C'est-à-dire que l'écriture doit, en quelque sorte, c'est cette méditation constante de l'écriture qui est au centre de la vie de Jean Cassien et qui est au centre de la vie de la plupart des moines de l'époque, est quelque chose de tout à fait fondamental. Parce que c'est par cette méditation qu'on arrive, en quelque sorte, à saisir, avec la grâce de Dieu, les intentions divines. Pour saint Jean Cassien, c'est la voix de la divinité elle-même. Il parle du glaive de la parole à la suite de saint Jean Chrysostome. Il va s'appuyer sur certains éléments, des éléments simples. Il va s'appuyer aussi sur le symbole de foi, le credo, si vous voulez. Et il va prendre le symbole qui était adopté à Antioche, parce que c'est précisément ce symbole-là qui était aussi le symbole de Nestorius, qui était originaire de cette région. Et là, il y a une petite remarque aussi intéressante qu'il fait à propos du mot « symbole ». Et il dit « Le symbole, c'est ce qui vient de l'assemblage, symbolos, c'est mettre ensemble, en latin, collatio. Et les collationes, donc, de de saint Jean Cassien s'inscrivent en quelque sorte dans cette notion du mot symbole. Mettre ensemble, assembler, parce que les apôtres du Seigneur ont assemblé sous l'unité de la foi tous les éléments de la foi catholique. C'est un assemblage sous l'unité de la foi. Donc cela éclaire en quelque sorte le titre même des conférences. Par ailleurs, le symbole de foi est un condensé, est un résumé. C'est ce qu'il va appeler une parole abrégée, verbum breviatum, parole abrégée qui est en quelque sorte un résumé, une synthèse de l'Écriture. Et il constitue pour lui un très riche raccourci de l'Écriture. Donc il va mettre Nestorius en face même du symbole de foi, il va choisir le symbole de foi d'Antioche et il va montrer que Nestorius est incohérent par rapport à ce symbole et que s'il est vraiment chrétien, eh bien, il doit renoncer à ses positions. De plus, saint Jean Cassien va s'appuyer sur, et c'est peut-être une des premières fois, c'est intéressant pour l'histoire de la théologie, il va réunir des témoignages patristiques. Il inaugure ainsi donc une pratique qui est celle des florilèges. Vous savez que par la suite va se développer dans la théologie byzantine la pratique des florilèges. C'est-à-dire que quand on veut affirmer une position, on ne l'affirme jamais sans s'appuyer sur les témoignages patristiques. C'est la pratique aussi des conciles. Donc là, on va avoir un genre particulier, un genre littéraire particulier, dans lequel d'ailleurs s'inscrit saint Jean Cassien, je ne sais pas si c'est le premier, mais en tout cas, c'est parmi les premiers, qui est celui des florilèges patristiques. Et il va aussi assez loin, puisque il va affirmer que, selon la divinité, le Christ a été consubstantiel au Père, et selon la chair, il est consubstantiel à la Mère. Nous sommes là devant la première affirmation, en quelque sorte, de la double consubstantialité, pourrait-on dire, de la double nature du Christ, telle qu'elle va être reprise par la suite par le pape Léon, qui aura une influence décisive au concile de Chalcédoine. Il s'agit, ce n'est pas encore exprimé de façon très, disons, carrée, mais il s'agit de l'union hypostatique dans la personne des deux natures. Il va plus loin. Il a l'idée aussi de la communication des idiomes. Qu'est-ce que c'est que les idiomes? Ce sont ce qui caractérise les caractères, en quelque sorte, de la personne divine et de la personne humaine. Le Christ, dit-il, concorpore, c'est-à-dire assume dans un même corps, Fils de Dieu et Fils de l'homme, et unit l'homme à Dieu, si bien que ni au point de vue du temps, ni durant la passion, on peut les diviser, puisqu'il enseigne que même le même Seigneur Jésus-Christ est Dieu de toute éternité, et qu'il est homme en ce qu'il subissait sa passion. Voilà. Donc je crois que son influence là est considérable. Influence sur la compréhension de l'incarnation, influence sur l'utilisation systématique de témoignages patristiques. Et il le dit d'ailleurs lui-même, le recours à l'autorité des pères indique en général une certaine défiance à l'égard des spéculations trop abstraites et des subtilités excessives. Il est un appel au-delà de la raison individuelle à la tradition, non point à la tradition humaine, mais à la tradition divine. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Ce qui est un peu étonnant dans l'ouvrage de Marie-Anne Vanier, c'est qu'elle tend à gommer ou à minimiser l'importance du nestorianisme, comme si en fait on ne l'avait pas très bien compris, et que Nestorius n'était pas aussi radical que ça. Je n'ai pas étudié de près le nestorianisme. Il y a peut-être des niveaux qu'il faut distinguer. Il y a peut-être aussi une différence entre ce que l'homme, le théologien, dit et sur la façon dont il est compris. Et je voudrais simplement signaler que le problème du nestorianisme était un problème tout à fait réel, c'est-à-dire la dissociation dans le Christ de sa nature humaine avec sa nature divine. C'est ça le nestorianisme. Que les mystiques en particulier vont se heurter à leur hiérarchie à cause de cela. Parce que pour eux, le Christ, sous ses deux natures, est le moyen, en quelque sorte, d'accéder à la divinité. Et c'est contre les mystiques que le patriarche Timothée Ier, au VIe siècle de l'Église nestorienne, ira jusqu'à déclarer dans un synode réuni contre eux que l'humanité du Christ elle-même, si glorifiée qu'elle soit, ne peut voir sa divinité. Il va très loin. C'est-à-dire que le Christ même, dans son humanité, ne peut voir sa divinité. Pourquoi ? Parce que la théologie nestorienne veut garantir une sorte de transcendance de Dieu, la préserver de tout mélange avec le créé et le limité. Et ceci contrairement à certaines affirmations qui ont pour but de réhabiliter Nestorius et son pseudo-effort de recherche. Là, je me réfère à un article de Robert Bellay sur Jean d'Aliata, D-A-L-Y-A-T-H-A. Robert Bellay, l'originalité de Jean d'Aliata dans la spiritualité syrio-orientale, qui a été publié dans le monachisme syriaque au 7e siècle, Patrimoine syriaque, acte du colloque 6, édition du Centre d'études et de recherche orientale, 1999, volume 1, page 142 et notes. Donc, il me semble que vouloir affaiblir, comme c'est la tendance à l'heure actuelle, où on affaiblit un peu tout d'ailleurs, les positions de Nestorius, est une erreur, puisque il a été parfaitement compris par le patriarche Timothée comme séparant la nature humaine de la nature divine. Dans sa christologie, Saint Jean Cassien va utiliser une expression interne qui est celui de Homo Dominicus ou Kyriakos Anthropos. Or, Marie-Anne Vanier, dans son ouvrage, explique que les autres pères refusent l'expression d'Homo Dominicus ou Kyriakos Anthropos. Or, ce n'est pas exact. Ce n'est pas exact. Et je renvoie à une communication qui a été faite à la 7e conférence d'études patristiques d'Oxford en 1975 par Alois Krillmeyer, qui montre comment l'expression Kyriakos Anthropos, Homo Dominicus, a été largement employée. Elle a été employée par Marcel Dancyre dans son Épître aux Éthiopiens, l'exposition Fidei transmise selon l'Athanase, Marc l'Ermite, Didyme d'Alexandrie, Épiphane de Salamine, Grégoire de Nice, puis plus tard dans un sens spécialisé, les onze de Jérusalem, ainsi que par les pères latins comme Jérôme, le pape Damase. C'est uniquement Augustin qui, dans un premier temps, l'avait employé, va désapprouver son usage. Mais Augustin, excusez-moi, ce n'est pas tous les pères. L'expression a différents sens chez ces différents auteurs. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Qu'est-ce que veut dire simplement Cassien en l'employant ici? Il veut simplement dire l'union de la divinité et de l'humanité. C'est-à-dire que dans le Christ, il y a union de la divinité et de l'humanité. Il est homme et Dieu, il est homo dominicus. C'est tout ce qu'il veut dire. Et d'autres lui donneront d'autres sens. Et en ce sens, l'homo dominicus, employé par saint Jean Cassien, s'oppose à l'homo solitarius, l'homme solitaire, l'homme seul, psilos anthropos, c'est-à-dire l'homme nu, qu'il attribue à Nestorius. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une réflexion ici, me semble-t-il, sur l'hypostase divine et l'unité de l'hypostase divine. Ce n'est pas un hasard, à mon sens, si plus tard, l'expression « Kyriakos anthropos » va être reprise par un théologien comme Léonce de Jérusalem, qui fait partie de la théologie néo-calcédonienne. C'est-à-dire qu'il y a une maturation, il y aura une maturation, une réflexion sur sur le concile de Chalcédoine, qui aura du mal à être vraiment accepté et qui trouvera en quelque sorte une véritable expression avec ce qu'on a appelé la théologie néo-calcédonienne et Justinien, par exemple. Cette divino-humanité du Christ. Voilà. C'est un peu ce que reprendra, en quelque sorte, Léon le Grand. Léon le Grand, dans sa polémique, et surtout dans son affirmation au concile de Chalcédoine, avec le fameux tome de Léon, va reprendre le De Incarnatione de saint Jean Cassien. Non seulement va le reprendre dans sa structure comme dans son mouvement, mais il va reprendre aussi le florilège patristique que saint Jean Cassien a mis en avant. Et qui va, ce florilège patristique constituera la deuxième partie de la lettre à Flavien du pape Léon. Donc, l'influence, on l'a déjà vu, on a déjà parlé de l'influence de saint Jean Cassien sur le monachisme occidental. On voit aussi qu'il a eu une très grosse influence, finalement, pour la réflexion sur la relation entre le libre-arbitre et la grâce, qu'il a eu une très grosse influence pour la réflexion sur la nature du Christ, les natures du Christ. Et donc, saint Jean Cassien aussi aura s'inscrit dans un mouvement de réflexion sur la prière qui va être reformulé de façon plus explicite, pourrait-on dire, par saint Grégoire Palamas dans sa défense des saints hésychastes. Voilà, je crois que là nous avons bien terminé en quelque sorte cette série de conférences. Je crois avoir montré, j'ai essayé en tout cas, de montrer l'importance très grande qu'avait joué Saint Jean Cassien et aussi son actualité. Je vous remercie.